Alors, chaque année, en septembre, je reçois dans ma boîte aux lettres un flyer. Et ce flyer est publié par la ville de Caluire, où j'habite, et il m'invite au forum des associations. Et peut-être vous, dans votre ville ou dans votre quartier, vous avez un genre de forum d'association tous les années. Mais le principe est assez simple. Une centaine d'associations culturelles se rassemblent dans un complexe sportif à Caluire pour présenter leurs projets au public. Chaque association a son propre guichet, ses propres brochures et une opportunité d'attirer l'attention des gens. Il y a des centaines, peut-être même des milliers, je ne sais pas, mais beaucoup de Caluirards qui viennent pour regarder et pour chercher une association qui leur convient. Il est donc important pour les représentants de communiquer d'une manière simple et précise qui ils sont et ce qu'ils font. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est pas parce que je suis très intéressé par les forums d'associations, mais parce que de la même manière, notre monde nous offre un genre de forum des associations. Le monde nous offre en fait un forum des croyances. À la télé, sur les réseaux sociaux, à la bibliothèque, à l'école, en fait partout, nous nous trouvons au milieu d'un forum des croyances, où tout le monde a des avis à nous offrir sur la réalité ultime, sur le sens de la vie et sur l'éthique. Et à ce forum des croyances, les enjeux sont assez élevés. Au forum des croyances, on ne parle pas des activités ludiques ni de loisirs. Par contre, on parle de notre éternité devant Dieu. On parle des questions importantes. En étudiant 1 Pierre chapitre 3 versets 8 à 17, on verra que ce que nous faisons est lié inextricablement à qui nous sommes et que nous avons une responsabilité à transmettre la vérité précisément et honnêtement au monde. Dans le vaste espace du forum des croyances, nous offrons au monde le chemin, la vérité et la vie. L'association des croyants, ou plus précisément la communauté des croyants, représente Christ sur terre. Alors, qu'est-ce que Dieu nous offre pour montrer Christ au monde? On va lire maintenant 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 17. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuivre, car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ce qui diffame votre bonne conduite en Christ soit confondu. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Alors, avant d'aller plus loin dans cette étude, je vous invite à la prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds, qui est une lumière notre sentier. Seigneur, je te remercie pour ta parole, pour ce texte que tu as révélé pour nous, pour notre édification. Seigneur, guide-nous maintenant dans cette étude, dans ce que je dis. Donne-nous tous des oreilles attentives à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je pense qu'au centre théologique de ce texte est le verset 15 qui nous dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Le témoignage de la communauté des croyants commence par notre foi en Jésus-Christ et par ce qu'il opère dans notre cœur. La communauté des croyants a trois devoirs devant Dieu selon ce texte. Donc il y a trois points dans cette prédication. La première chose, un devoir de transmettre la grâce de Dieu au monde. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, un devoir de représenter la souffrance de Christ au monde. Et troisième, un devoir de défendre la vérité biblique par un saint raisonnement qui pointe les gens vers Christ. Alors le premier de ces devoirs est un rappel de bénir, les uns les autres, de bénir ceux qui nous insultent, de bénir en fait tout le monde. Bénir veut dire, dans ce contexte, donner grâce, transmettre des faveurs non méritées. Pierre rappelle aux chrétiens du premier siècle qu'il devrait être une grâce incarnée dans leur communauté. Leur amour fraternel, leur compassion, leur humilité sont censés servir comme bénédiction pour la communauté des croyants. Leur engagement vers le pardon et la paix sont censés servir comme bénédiction pour le monde. Leur capacité de donner grâce aux autres est censée servir comme témoignage de la grâce de Dieu dans leur vie. Dans ces versets, l'apôtre Pierre fait référence au psaume 34 qu'on a lu tout à l'heure, afin de montrer le bon résultat qui attend ceux qui vivent par la bénédiction. En fait, je devrais mentionner que le verset 10 devrait commencer par la conjonction « car » dans vos Bibles, parce que l'idée dans ce texte, dans le texte original, est que les bénédictions des versets 10 à 12 sont liées directement au comportement des croyants au verset 8 à 9. Donc ces deux versets sont liés. Les versets 8 et 9 sont liés vraiment au verset 10 et 12. Pierre est en train de dire tout simplement que Dieu prend plaisir dans notre bénédiction des autres. Dieu est un Dieu de grâce. Il nous donne la grâce afin que nous transmettions cette grâce aux autres. Il nous donne la grâce afin que nous remboursions les insultes et les blessures des autres avec la bénédiction, la grâce de Dieu. Peut-être vous connaissez la célèbre histoire de Jim Elliot et quatre autres missionnaires qui ont été tués en essayant de prendre contact avec une violente tribu en Équateur. C'est une histoire que les pasteurs aiment beaucoup raconter, donc j'imagine que déjà vous avez entendu cette histoire plusieurs fois. Mais quand même, la vie de Jim Elliot et celle de sa femme Elizabeth illustrent bien les principes enseignés dans ce texte. À l'âge de 29 ans, Jim Elliot et quatre autres missionnaires ont dit au revoir à leur famille et ils ont pénétré dans la jungle afin de prendre un premier contact avec une tribu connue pour sa violence envers les étrangers. D'autres tribus avaient vraiment peur de ce peuple, mais les missionnaires ont été convaincus que Dieu aimait ce peuple et que Dieu seul était capable de transformer ce peuple. Après un très bon premier contact avec quelques membres de ce peuple, les missionnaires étaient heureux enfin de tisser un début d'amitié avec ce tribu. Mais quand leurs nouveaux amis sont retournés les voir le jour après, ce n'était pas pour leur parler, mais pour les tuer. Et Jim Elliot et ses quatre collègues ont été tués dans cette jungle. Mais ce qui est impressionnant dans cette histoire, c'est la réponse de sa femme, Elizabeth. Elle est retournée dans cette jungle et elle a pardonné aux assassins de son mari. Accompagnée par d'autres missionnaires, elle a annoncé l'évangile de grâce à cette tribu. Elle a béni cette tribu avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et par cette bénédiction, les meurtriers de son mari se sont humiliés devant Dieu et ils ont accepté Christ comme sauveur de leur vie. Elizabeth Elliot a répondu à l'insulte et au mal par la bénédiction, par la grâce. Et c'est ça l'idée qu'on trouve dans ce texte. Elle n'est pas toute seule à avoir ce comportement. Beaucoup de chrétiens de l'histoire avaient des occasions de répondre à l'insulte par la bénédiction. Et de plus, ces chrétiens comprennent que la bénédiction des autres est inséparable de la grâce de Dieu dans leur vie. Notre bénédiction des autres n'a aucun sens si ce n'était pas pour la grâce de Dieu en Christ. Toute bénédiction commence par Dieu, et par cela, nous pouvons bénir notre Église, nous pouvons bénir nos ennemis, nous pouvons bénir en fait tout le monde. Je me demande si Pierre, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, s'est rappelé des mots de Jésus dans le serment sur la montagne, où Jésus dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent. » Cet enseignement et celui de Pierre ne sont pas naturels pour nous, les êtres humains. Ce n'est pas du tout naturel. Ce qui est naturel, c'est la violence, n'est-ce pas? C'est la revanche. La grâce, par contre, la grâce nous déconcerte. La grâce nous perturbe. Face à notre nature déchue, la grâce est folle. Mais grâce à Dieu, la folie de la croix a été manifestée dans notre vie. Par cette grâce de Dieu, que nous ne méritons pas, Dieu nous permet de vivre notre vie dans la grâce, dans le marché des idées, dans le forum des croyances. Nous sommes appelés à être une communauté qui transmet la grâce de Dieu. Mais dans notre témoignage, nous sommes aussi appelés à être une communauté qui représente la souffrance de Christ. Au verset 13 à 14, Pierre s'adresse à l'Église en disant que la maltraitance de ceux qui font du bien n'est pas normale, bien sûr, mais quand elle arrive, des fois, ou parfois, nous devrions répondre à cette maltraitance par une confiance renouvelée en Dieu. Ce texte nous rappelle de prendre sur nous notre croix et de suivre Jésus dans la souffrance. Les chrétiens du premier siècle ont souffert l'emprisonnement, la torture et la barbarie des arènes à cause de leur foi et malgré tout le bien qu'ils avaient fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent physiquement dans ce monde. Beaucoup de chrétiens qui souffrent physiquement à cause de leur foi. Alors ici en France, par contre, vous avez peut-être souffert, pas la persécution physique, mais du ridicule ou peut-être de l'isolement à cause de votre foi. Si vous êtes un chrétien, pas juste en nom, mais en pratique, vous êtes une minorité, mal comprise et soupçonnée par notre société. Mais selon ce texte, toute la souffrance injuste des chrétiens sert à témoigner de la croix de Jésus-Christ, où il a souffert à notre place. En fait, je dirais, conformément au principe de l'Écriture, que toute souffrance physique, toute souffrance émotionnelle et relationnelle dans ce monde nous pointe vers la souffrance de Jésus à la croix. Et donc, pour ceux parmi vous qui souffrent aujourd'hui, j'espère qu'en reconnaissant la croix de Jésus-Christ et sa souffrance, votre souffrance aussi prendra tout son sens. Encore Pierre se pose la question rhétorique. Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Après tout, ce n'est pas logique de se retourner contre ceux qui nous aident, n'est-ce pas? Si nous œuvrons pour le bien du monde, pourquoi le monde nous résiste-t-il? Mais Pierre comprend quand même que le monde ne reconnaît pas toujours le bien. Le monde ne reconnaît pas le bien que Christ lui offre. On était en famille récemment au parc de la Tête d'Or et on a vu le lion qui est là. Et je me pose cette question, pourquoi un lion nous dévore-t-il si nous l'approchons doucement avec l'intention de le caresser et de lui donner à manger? Pourquoi? Nous pouvons montrer au lion une pétition signée pour sa protection. Nous pouvons offrir au lion une meilleure vie dans un refuge faunique naturel. On peut faire beaucoup de bien pour le lion. Mais il n'est pas notre ami, n'est-ce pas? Il n'est pas forcément notre ami. Alors,
Il est mort aussi, hein.
oui, je sais, ouais, c'est dangereux des lions. Donc, si
Ouais,
il est
faut
bien nourri, ouais, on va parler de ça après, ok, Denis. Mais merci pour ces commentaires. Si il est bien nourri, il pourrait nous laisser tranquille quand nous entrons dans sa clôture, n'est-ce pas? Mais il est un lion, après tout, comme j'ai dit. Et même s'il apprécie le steak que nous lui donnons, il n'hésiterait pas à nous manger aussi. De la même façon, le monde pourrait reconnaître le bien de l'Église et nous accueillir, ou le monde pourrait nous ignorer tout simplement. Où le monde pourrait être offensé par la croix de Jésus-Christ et se retourner contre nous. Comme avec le lion, tout est possible. Nous ne devrions pas nous étonner si nous souffrons pour Christ. Comme pour le lion, le monde n'est pas forcément notre ami. Ça marche comme ça. Et donc, en tant que chrétiens, nous sommes tentés par la crainte de ce monde. Nous sommes peut-être troublés par le diable. Nous sommes peut-être troublés par le fait que notre foi nous isole du monde. Nous sommes peut-être troublés par la persécution du ridicule à cause de notre foi. Mais Pierre nous rappelle que l'injustice contre l'Église fait partie de la vie chrétienne. Et que malgré ces injustices, nous n'avons rien à craindre dans le Seigneur. La souffrance de l'Église représente la souffrance de Christ et sert à pointer les gens vers la croix. Dans le marché des idées, dans le forum des croyances, notre devoir est de pointer les gens vers Jésus et vers son sacrifice à la croix, afin que certains reconnaissent leur besoin d'un sauveur et afin qu'ils se repentent devant Dieu dans la foi. Comme l'Église au premier siècle, notre Église aussi est appelée à être une communauté qui proclame et qui défende la vérité biblique. Dans les versets 15 à 17, nous sommes encouragés de sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur et d'être toujours prêts à nous défendre contre quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Nous sommes appelés à le faire avec douceur, avec crainte. Et selon le début du verset 15 de ce texte, nous sommes appelés avant tout à mettre Jésus au centre de notre défense de la parole. C'est de ce verset et du mot défense que nous obtenons le mot apologétique, apologia, qui veut dire tout simplement défense. L'apologétique ou la défense de la foi chrétienne prend des formes différentes, mais le but de toute apologétique est d'annoncer et de défendre la vérité. Ce travail n'est pas réservé aux théologiens ou aux philosophes. Bien sûr, on est content d'avoir des spécialistes dans des domaines divers. On est content qu'il y ait des gens plus intelligents que nous qui écrivent des livres, qui parlent lors des conférences, etc. Mais quand quelqu'un nous pose une question, ou quand quelqu'un fait une remarque sur la religion, c'est une opportunité de répondre avec douceur et respect, n'est-ce pas? Et c'est dur, ça, c'est dur. Il est toujours difficile de se défendre contre des attaques intellectuelles et d'avoir la sagesse de savoir si ça vaut la peine de répondre. Parfois, une simple remarque d'un sceptique demande des heures de réflexion appliquées et un raisonnement précis. Et souvent, les questions sont posées à la légère par des personnes qui se moquent éperdument de la réponse. Dans ces versets, Pierre ne nous appelle pas à nous engager dans des discussions, dans des débats inutiles avec des personnes antagonistes. Il nous appelle à donner des réponses honnêtes aux questions honnêtes. Dans le débat pour la vérité, je dirais que ce débat est déjà gagné aussi. Jésus est la vérité, n'est-ce pas? Connaître Jésus veut dire connaître la vérité. Et notre tâche, notre devoir est de donner une défense rationnelle pour la validité de la foi, afin de réduire au silence l'ignorance des insensés. Mais comment nous préparer à bien défendre la foi? La réponse se trouve au verset 15. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Si on veut faire connaître Jésus, il faut d'abord que l'on connaisse Jésus. Si on veut défendre la foi, il faut avoir la foi, n'est-ce pas? Si on veut annoncer la vérité, il faut croire en la vérité. Si on veut défendre la Bible, il faut lire la Bible. Si on veut persuader le monde, il faut identifier les doutes du monde. Vous connaissez cette fameuse anecdote, il faut 10 000 heures de répétition dans une activité avant de devenir un expert dans cette activité. Pour ceux qui jouent au sport ou la musique ou ce genre de choses, peut-être c'est vrai. Il faut beaucoup de répétitions pour devenir expert. Bien que nos capacités naturelles jouent un rôle important, ce n'est pas fou de suggérer que plus on passe du temps dans un domaine, plus notre compétence augmente. On développe une compétence dans l'apologétique en priant, en étudiant, en conversant, n'est-ce pas? Regardez, quand vous avez un peu de temps cette semaine, comment l'apôtre Paul aborde les philosophes d'Athènes en Actes chapitre 17. Il a commencé en trouvant un terrain d'entente. Il s'est référé à leur croyance, à leur poète, afin de présenter Jésus. Il s'est appuyé sur leur croyance dans la création afin de la pointer vers le Créateur. Il a répondu à leur désir de louer un Dieu en leur offrant une relation avec le vrai Dieu de l'univers. Et donc, où est Athènes aujourd'hui? Où est Athènes aujourd'hui? Athènes, en fait, c'est la France. C'est l'Europe, c'est les pays autour de nous, c'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est le monde occidental. En tant que philosophe, je dirais que ces pays, avec leurs universités, sont vraiment au centre de la réflexion philosophique du XXIe siècle. La philosophie postmoderne qui sape la vérité, qui sape la bonne herméneutique biblique, est née ici en Europe, en France. Elle était développée ici en Europe. Elle est maintenant exportée de partout. Nous sommes à Athènes aujourd'hui. Et nous devrions être toujours prêts à nous défendre contre quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Plusieurs fois dans l'année, les écoles de mes enfants font des exercices d'évacuation incendie. Et pour les petits, mes plus petits, ils ne comprennent pas exactement de ce qui se passe. Normalement, s'il y a un vrai incendie ou pas. Pourquoi ils sont obligés de quitter le lieu rapidement et de rester dehors pour aucune raison apparente. Alors pourquoi? Pourquoi on fait ça? C'est évident, n'est-ce pas? C'est pour être toujours prêt. C'est pour être prêt le jour où il y aura un vrai incendie. Dans le forum des croyances, est-ce qu'on est toujours prêt? Dans le marché des idées, est-ce qu'on est prêt à nous défendre contre quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous? M'écouter pendant 25 minutes le dimanche ne ferait pas de vous des experts dans la foi chrétienne, dans la spiritualité, dans la Bible. Pas du tout. Vous avez du pain sur la planche, n'est-ce pas? L'étude de Dieu et de son monde est-il une priorité pour vous? L'apologétique n'est pas réservé aux spécialistes. On doit tous apprendre. Par exemple, le post-structuralisme. Pourquoi devrais-je m'y intéresser? Qu'est-ce que c'est ça? Parce que ça forme en fait la base du rejet de la vérité biblique dans le postmodernisme, le matérialisme philosophique. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Parce que c'est la vision du monde présupposée par la plupart de vos collègues au travail. Le panthéisme non-dualiste, peu importe, n'est-ce pas? D'accord, mais c'est ce que vous affirmez en pratiquant le yoga ou en employant le mot karma lorsque quelque chose de mauvais arrive. Vous savez, l'existentialisme, le scepticisme épistémique, le scientisme athée, le relativisme logique et éthique, qu'est-ce que c'est tout ça? En fait, c'est la religion de vos amis, c'est la religion de vos collègues, c'est la religion des membres de votre famille, de vos voisins. Et dans le forum des croyances, dans le marché des idées, nous avons un devoir. Nous sommes les titulaires, les porteurs, même les annonciateurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort pour nos péchés, ressuscité d'entre les morts et monté au ciel. Qu'est-ce que vous faites pour défendre cette vérité? Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine pour vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous? Nous sommes tous appelés à transmettre la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Nous sommes tous appelés à représenter la souffrance de Christ dans ce monde. Nous sommes tous appelés à défendre la vérité biblique. Et dans ce vaste forum des croyances, la seule croyance qui compte pour l'éternité, c'est la foi en Jésus-Christ, le Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, cette parole a été révélée pour notre édification. Cette parole a été révélée afin de nous convaincre. Et Seigneur, nous te prions pour que nous prenions au sérieux ce texte. Aide-nous, Seigneur, dans la défense de la vérité. Aide-nous à transmettre ta grâce avec amour et avec humilité. Au nom de Jésus. Amen.